20 minutes.
Oui, merci. Donc je vais contracter mon propos en 20 minutes. Et vous m'excuserez de passer assez rapidement sur des questions très importantes sur lesquelles vous aurez l'occasion de revenir dans vos questions et vos réactions et vos commentaires. D'abord, peut-être pour dire aussi que je suis une pièce rapportée avec tous les intervenants précédents, parce que je ne suis pas ni membre de l'IDERIC ni de l'URMIS actuel, et donc je suis un compagnon de route, on peut dire ça comme ça, abonné à la discussion avec vous, et j'apprécie beaucoup cette discussion. Bon, j'ai un peu customisé mon titre en disant « La discrimination ethno-raciale dans une société colorblind », et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais rappeler assez rapidement l'émergence de la problématique, je vais parler de la façon dont on peut essayer de thématiser les discriminations, non pas dans les nombreux travaux qui ont été conduits par beaucoup de personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais dans les approches peut-être quantitatives, et notamment parce que je pense que ça met en lumière une dimension qui n'est pas individuelle en définitive de la discrimination, mais une dimension structurelle. En fait, paradoxalement, quand on fait des enquêtes individuelles, ce qu'on voit, c'est pas tellement ce qui arrive aux gens, mais c'est ce qui, par l'agrégation de leurs expériences, en fait, renvoie aux structures de la société. Et c'est de ça dont je vais essayer de parler. J'aborderai la question des catégories de façon assez rapide, même si c'est un sujet en soi, et vous savez bien que les polémiques, on les a abordées ce matin, sont nombreuses. Et puis je terminerai, et c'est là où la question de savoir du temps que j'aurais pris pour le faire, par donner quelques éléments qui donnent, à mon avis, à partir de l'enquête, des enquêtes qu'on a pu faire récemment, une idée de l'existence de ces structures ethno-raciales de la société française qui, à mon sens, sont indéniables. Et puis bon, voilà, je vais essayer de l'illustrer en renvoyant quelques questions qu'abordait aussi Michel Auriol sur la question de l'appartenance, qui est une question que je trouve assez passionnante. Voilà. Alors, là, sur l'émergence de la problématique, je vais être très rapide parce que je ne parle pas de la question de la mise sur l'agenda politique qui a été traitée par ailleurs par Fassin et d'autres pour montrer que ça arrive à la fin des années 90, début des années 2000, ce qu'on sait assez bien. Mais dans les travaux en sciences sociales, en fait, paradoxalement, le terme discrimination lui-même est un concept qui n'est pas absent, mais qui n'est pas très central finalement. Quand on regarde assez rapidement les publications sur Percé, on a vu ça hier, si vous vous amusez à taper discrimination, enfin, faut s'amuser un peu longtemps parce que ce qui ressort est assez long à regarder. Il n'y a pas tant que ça, finalement, dans les sciences sociales françaises, de textes qui travaillent à la question. C'est essentiellement des textes juridiques qui commentent, en fait, les traités internationaux. Donc, dans les années 50-60, l'OIT, l'ONU, c'est ça qui renvoie à la discrimination. Il y a les travaux d'André Michel qui ont été évoqués par Joyce hier, qui abordent explicitement les discriminations dans son livre sur les travailleurs algériens. Et d'ailleurs, Larocque, qui fait sa préface, le seul endroit où il a un problème avec elle, c'est quand elle parle de discrimination. Il le dit dans la préface. Il dit oh, « on parle de discrimination, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de ça? Est-ce que c'est vraiment de ça dont il s'agit ?» Donc, mais à part elle, finalement, c'est pas une thématique. On parle d'inégalité, mais on parle pas de discrimination. Il y a quelques... Alors évidemment, il y a des recensions de travaux sur le racisme ailleurs. Alors là, on parle de discrimination, les travaux britanniques, travaux américains, mais pas sur ce qui se passe en France. Et puis, on commence à voir arriver des références dans les cahiers du GRIF qui parlent de discrimination à l'égard des femmes, donc dans les travaux féministes. Et encore, ils sont assez pionniers et uniques dans le champ du féminisme à parler de discrimination dans les années 75-76. Et puis après, on voit arriver le thème beaucoup plus fortement dans les années 80 et la deuxième moitié des années 90. Bon, mais là, c'est une histoire plus connue, donc je ne prends pas là-dessus. En fait, si on n'en parle pas beaucoup, il y a différentes raisons pour ça. Moi, je voudrais insister sur une chose qui était dans mon titre, le côté colorblind, c'est qu'en fait, parler de discrimination, c'est une double rupture avec le modèle républicain. Une double rupture, la première, c'est qu'en fait, elle invite à revoir l'approche traditionnelle du racisme et de l'antiracisme. L'approche canonique ancrée dans les travaux qui sont plutôt en termes de philosophie politique, histoire des idées. Donc même le livre de Guillaumin qu'on a évoqué ce matin, absolument fondamental dans nos travaux, en fait, c'est pas vraiment un travail de sociologie du racisme. Elle n'a pas d'observation du racisme. Elle fait une analyse des articles. Donc elle est encore, elle publie très bien en mots, quoi. C'est à peu près cette approche-là, quoi. Et c'est une approche qu'on retrouve chez Taguieff et chez les autres. Ils observent pas le racisme en acte. Ils observent pas la façon dont les actes racistes se déploient, ni la façon dont les personnes qui sont victimes du racisme ou racisées réagissent ou le vivent. Donc c'est pas ça dont dont il s'agit. Il s'agit d'une histoire, des idées autour du racisme et de la race. Et donc les discriminations, en fait, un des points de rupture, c'est qu'en fait, on va s'intéresser matériellement aux structures du désavantage. Comment ça se produit et quelles sont leurs conséquences. Et en ce sens-là, on sort de la dimension idéologique de la dénonciation du racisme pour entrer dans des travaux pratiques. Et ça suppose de faire une rupture avec le modèle républicain, parce qu'en fait, le modèle républicain, sa grande caractéristique, et je dirais sa grande vertu d'une certaine façon, c'est de faire croire que c'est pas possible le racisme en France. C'est pas possible parce que c'est en dérogation avec le modèle des droits de l'homme. La patrie des droits de l'homme ne peut pas nourrir du racisme. Les États-Unis, le Grande-Bretagne, évidemment que le racisme y est à demeure, mais par contre, en France, non, il y a des actes individuels isolés qui sont ceux du racisme des racistes, mais pas l'institution, pas la structure même de la société qui serait responsable. Or, la discrimination ouvre à une approche du racisme institutionnel, alors qu'il ne s'appellera pas comme ça, mais du point de vue de la production, en fait, d'un désavantage à l'intérieur même des structures de la société. On bascule d'une responsabilité d'individu à un système. Et puis, c'est un contre-pied sur le modèle d'intégration. Parce que le modèle d'intégration, qu'est-ce que ça raconte? En fait, tous les travaux sur l'intégration, la sociologie de l'immigration, la sociologie de l'intégration, c'est une sociologie des transformations des immigrés qui deviennent comment on passe du « nous » à eux. C'est de ça dont ça parle. C'est-à-dire la modification de la culture, les formes d'adaptation, les formes de participation qui vont progressivement les faire rentrer à l'intérieur de la société mainstream, de la société majoritaire. Et donc, en fait, ce dont parle l'intégration, alors accusée de façon très très forte quand elle devient normative à travers la politique d'intégration, c'est-à-dire qu'en fait, comment on met à niveau des personnes qui sont en décalage, sont les outsiders, et comment ils deviennent, en fait, des membres à part entière de la société, ou, pour reprendre ce que disait Sayat sur la naturalisation, comment les naturalisés deviennent des naturels. C'est ça, le propos d'une sociologie de l'intégration. Je veux dire, c'est pas une critique que je dis, j'en fais moi-même, donc je m'autocritique en le disant ça, mais de fait, c'est ça un peu le sujet de l'intégration. Or, en fait, la question de la discrimination se fout pas mal de savoir comment on devient comme les autres. En fait, le problème, c'est pas de devenir comme les autres, au contraire, c'est d'assumer qu'il y a une diversité et des différences. Le problème, ça n'est pas de pointer les différences, le problème, c'est de regarder comment les structures rendent possible la participation avec les différences. Et donc on bascule complètement le point de vue qui n'est plus du tout celui des acteurs et des individus, mais qui est celui des structures, comment elles deviennent capables d'être pluralistes. En fait, c'est la question du pluralisme qui est posée à travers la discrimination. J'aurais aimé que Michel Auriol soit là, parce que c'est un peu ça, son fond de commerce, hein, Michel, c'est parler du pluralisme. Et en parallèle de cette transformation, cette double rupture, il y a quelque chose aussi qui fait partie de la séquence historique dans laquelle on est situé, c'est-à-dire les années 80 aux années 2017, où on est aujourd'hui. Il y a un autre changement qui est, à mon avis, assez important, qui est la transition vers les des immigrés vécus comme des victimes inadaptées à mettre aux normes, à des minorités menaçantes. Et quand même, tous les discours sur les immigrés qui sont dotés d'incapacités parce que venus comme des travailleurs peu qualifiés, qui sont victimes de la restructuration industrielle, donc qui sont délaissés pour compte du système, qui ne sont pas compétents parce qu'ils n'ont pas la langue, pas les codes, pas, ainsi de suite, qu'il va falloir aider à obtenir tout ça. Ça, c'est le discours sur l'intégration. On arrive à « ils sont en train d'essayer de nous changer ». Et ça, c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, on retrouve ce que disait Victor Borgogno sur les conflits de cohabitation, c'est qu'ils sont en train de prendre le pouvoir. Ils sont en train de changer la société. Ce n'est pas nous qui devons les aider à devenir nous-mêmes, c'est eux qui sont en train de nous faire devenir eux-mêmes. Et tout ce discours-là se trouve cristallisé dans les débats les plus récents autour du grand remplacement, la question des normes et des valeurs communes, et des ruptures avec ces normes et valeurs communes que viendraient menacer les immigrés. Et avec l'incarnation la plus récente, mais la plus forte de cette dissonance-là, c'est-à-dire les musulmans. Ben, les musulmans, c'est des immigrés qui ne sont même pas intégrables. C'est même plus le problème. C'est comment les musulmans vont nous convertir, en fait. Bon, alors, Voilà, c'est pas besoin d'épiloguer. La couverture de gauche, en haut, cet islam sans gêne, à mon avis, est caractéristique de ce discours. Cet islam sans gêne. Alors quand on fait des sondages, ça c'est un sondage fait par le journal Le Monde et le Cevipof en 2013 et qui a été répliqué en 2014. Il y a une question, par exemple, il y en a plusieurs, mais j'en ai choisi qu'une seule. C'est, en pensant à la manière dont chacune des religions suivantes est pratiquée en France, dites-moi si elle cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres ou pas du tout. 80% des personnes interrogées disent « Ah ouais, les musulmans, la religion, l'islam, la religion musulmane, cherchent à imposer son fonctionnement aux autres. » 26% à propos des catholiques, 21% à propos des juifs. Vous voyez que là, il y a une conviction extrêmement forte, et je ne passe pas sur l'idée selon laquelle l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la République, et ainsi de suite, qui sont aussi des questions posées et répondues de façon massive, comme quoi l'islam, ça ne marche pas du tout dans la République. Donc, on est vraiment dans l'idée de la menace. Et donc, ça va thématiser cette histoire de discrimination auquel je voudrais arriver, qui a une autre propriété. Alors peut-être on a un peu insisté là-dessus, mais quand on a travaillé sur la discrimination, c'était aussi une façon de mettre de côté une sorte de charge affective et de réprobation maximale contre le racisme. On ne peut pas se dire raciste. Par contre, on pouvait concevoir, enfin il nous semblait, en tout cas pour une partie de ceux qui ont travaillé sur la question de discrimination, que c'était possible de dire on peut produire des discriminations. C'est-à-dire qu'on peut concevoir, qu'on peut participer à un système de discrimination où la question de l'intention et de la responsabilité, c'est-à-dire la disposition idéologique à désavantager, ou en tout cas à produire ces écarts de traitement, n'est pas indispensable. On peut produire des écarts de traitement sans avoir ce socle de conviction idéologique. On met en relation, il y a un fond musical, on met en visibilité, en fait, quand on parle de discrimination, des structures profondes de la société qui mettent en œuvre ces petits systèmes de bifurcation qui sont peut-être pas aussi majeurs que le racisme dans ses incarnations les plus maléfiques, mais qui sont extrêmement actives et très efficaces d'ailleurs pour canaliser dans certaines directions, empêcher d'arriver dans tel endroit, donc que ce soit dans les secteurs urbains, dans les emplois, à des postes de responsabilité. Et donc on retrouve là une rhétorique qui est assez, et des concepts et des outils qui sont assez proches finalement de ce qu'on dit à propos du sexisme et du plafond de verre et du système de désavantage auquel sont confrontées les femmes dans la société. Donc on va avoir le même type d'outils, le même type de proximité. D'ailleurs, c'est pas étonnant que Colette Guillaumin ait été à cheval sur ces deux dimensions. Parce que finalement, les dynamiques sont, même si l'histoire est assez différente, les dynamiques sont assez identiques. D'ailleurs, au passage, mais j'en parlerai pas, associé à cette question de discrimination, et ce qui devient de plus en plus important, c'est de parler aussi d'un système de privilèges. Parce que la discrimination, ceux qui la vivent ont un désavantage, mais par contre, ceux qui ne la vivent pas ont un privilège. Et ça, c'est évidemment le non-dit de la discussion sur les discriminations. C'est que s'il y en a qui n'arrivent pas, il y en a d'autres qui arrivent beaucoup plus vite. Ou, pour le dire autrement, un des modes de mesure des discriminations qui est, vous connaissez le testing, donc cette espèce d'estimation du nombre de CV, par exemple, qu'on écarte à caractéristiques égales parce qu'il n'a pas le bon nom par rapport à un autre CV, évidemment, on calcule toujours un écart qui serait de 2,5 à 3 fois, par exemple, moins de chances d'être appelé pour un entretien d'embauche quand on a un nom arabe par rapport à un nom typiquement français. Eh bien, quand on dit ça, on montre bien le désavantage du nom arabe. On dit rarement que quand on a un nom français, on a 3 fois plus de chances d'être appelé pour un entretien d'embauche. Or, en fait, c'est ça qui se passe. Évidemment. Or, évidemment, quand c'est une minorité très limitée, le fait d'avoir 3 fois plus de chances d'être appelé qu'une petite minorité, ça ne change pas grand-chose dans sa vie. Quand on est en Ile-de-France et qu'on représente à peu près les minorités qui sont susceptibles d'être discriminées sur le marché de l'emploi, représente à peu près la moitié des candidats à l'emploi, évidemment, d'être un blanc et de pouvoir être appelé plus que les autres, ça donne 50% de chances d'être appelé beaucoup plus rapidement. Et je ne parle pas de la recherche de logement, où là, on est encore plus certain d'obtenir plus rapidement son logement que la plupart des autres gens qui sont en train de les chercher au même moment. Donc cet avantage acquis, il vient revisiter aussi quelles sont les conséquences de la discrimination dans la formation des stratifications des sociétés multiculturelles. Alors, il y a plusieurs choses dans les définitions, je ne vais pas rentrer dans le détail, je suis déjà trop long. Il y a un problème de définition, il y a un problème de catégorie, donc c'est là-dessus que je voulais parler rapidement. Parce qu'évidemment, ce qu'on appelle discrimination, c'est quand même une différence de traitement fondée sur une catégorie. C'est une question catégorielle, ce n'est pas une question d'identité. La façon dont les personnes investissent ou pas la catégorie à laquelle ils sont renvoyés est indifférente en partie sur les mécanismes même de la discrimination. La discrimination s'est fondée sur les perceptions des groupes et donc en fait on peut parler véritablement de catégorie. C'est une différence catégorielle qui est appliquée et donc il faut définir la catégorie. Et c'est là un des enjeux forts de nos débats. C'est un problème de mesure puisqu'en fait elle se déduit quand même essentiellement de ses conséquences. C'est compliqué de voir la discrimination en acte. C'est possible, mais c'est compliqué. Donc souvent, on la voit par ses conséquences. Et puis, c'est un problème aussi d'intervention sur les mécanismes, un problème d'action. Donc je ne parlerai pas des problèmes d'action. Alors, la question des catégories, on a évoqué à plusieurs reprises, j'étais en écho, la lutte des classements. Évidemment, la question des catégories, elle vient activer toute une série de ressorts internes qui posent des problèmes dans ce modèle républicain. Et puis, pour d'autres raisons aussi, pour faire justice à toutes les positions qu'il y a autour des questions de catégories, c'est pas que des problèmes liés au modèle républicain, celui de la réification des identités notamment. Et donc, ça suscite des controverses à répétition. Je dirais que pour l'instant, et ça, je veux bien qu'on ait un débat là-dessus, il me semble que les choix qui ont été arrêtés en matière de catégories sont plutôt orientés, en tout cas prises dans le contexte d'une décision politique du modèle républicain, plus que d'une justification sur le plan de la réification. Bon, voilà. Après ça, dans les registres argumentaires, on peut discuter du reste, mais en pratique, les institutions que je connais bien, avec qui on travaille sur la statistique, leur vrai problème, c'est le modèle républicain, c'est pas les questions de réification. Et parce que par ailleurs, ils produisent en permanence des catégories qui réifient sans que ça pose des problèmes spectaculaires à ces institutions. Mais par contre, la visibilisation des questions des minorités ethniques dans la statistique publique est un problème politique qui est posé aux institutions qui sont garantes de ce modèle. Alors, ça pose un problème spécifiquement sur les questions de discrimination à plusieurs étages. Et puis ça pose un deuxième problème qui est d'une autre nature, qui est celui de la représentation de la diversité. Parce que par ailleurs, évidemment, ce que fait l'effet de verrouillage dans la statistique publique, c'est-à-dire en fait quelle est la représentation légitime du peuple. Or, ne pas mettre de catégorie ethno-raciale dans la statistique publique, c'est assumer que le peuple n'est pas divisé ou n'est pas différencié par ces catégorisations-là. C'est donc renvoyer une vision homogène du peuple sur ces caractéristiques-là. Bon, on peut discuter également de la validité ou pas de cette proposition, mais c'est exactement ça l'objectif qui est poursuivi. Puisque dans les pays où on va introduire ces catégories, c'est évidemment pour l'objectif inverse, qui est de donner visibilité de ces diversités internes. Après, elles sont produites, elles ne sont pas naturelles, mais elles sont retranscrites dans des instances politiques à travers cet appareil statistique. Alors, il y a un épisode particulier sur lequel on a vu les tensions, parmi les nombreuses tensions sur la question de catégorie où ça s'est produit, l'enquête trajectoire et origine qu'on évoquait tout à l'heure. On a eu l'idée un peu saugrenue de poser des questions sur la couleur de peau. La question sur la couleur de peau dans cette enquête de statistiques publiques, mais non obligatoires, donc pas l'équivalent du recensement, une enquête de recherche opérée par la statistique publique. J'insiste sur ce décalage, parce que c'est quand même important. La première idée était plutôt de poser des questions d'auto-classification dans des catégories ethno-raciales. Idée qui a été complètement abandonnée du côté de l'INSEE, et donc le compromis était de poser des questions sur la couleur de peau, qui, à titre personnel, ne me plaisent pas beaucoup. Bon, voilà. En l'occurrence, c'était ça. Il s'est trouvé qu'il y a eu une polémique qui s'est produite au moment où cette enquête arrivait sur le terrain pour son test. Et donc, qui n'était pas lié à l'enquête elle-même, mais qui était lié à une loi sur l'immigration qui contenait un article sur les statistiques, enfin sur la loi informatique et liberté, changer les modalités de contrôle sur la production de données faisant référence à l'origine ethnique ou à la race. Bon. Et à l'occasion de cela, une pétition de SOS Racisme a fait monter la pression. Et cette pétition, elle disait quoi ? D'ailleurs, c'est pas octobre 2010, c'est 2007, mais Voilà. Je sais pas pourquoi il est marqué octobre 2010, je me suis trompé. Elle disait, elle a pris l'enquête en ligne de mire. Elle dit en gros, cette enquête va poser des questions comme de quelle couleur de peau vous diriez-vous, vous l'avez vu. Avez-vous une religion? Si oui, laquelle? Et donc, ça dit, il est urgent de se mobiliser devant ce renoncement aux principes fondateurs de notre République. Je parle du modèle républicain. Voilà. Aujourd'hui, un appel est lancé. Je refuse les statistiques ethniques. Je refuse que quiconque me réclame ma couleur de peau, mon origine ou ma religion, et ainsi de suite. Alors, ce qui est frappant dans cette coïncidence et cette opposition qu'il y a à travers cette pétition, c'est que d'une part, quand on ne veut pas répondre à une enquête, c'est quand même plus simple de ne pas y répondre plutôt que de faire une pétition pour dire qu'on ne veut pas répondre à une enquête. Deuxièmement, c'est considérer que cette enquête investit l'État dans ses structures profondes. Et donc, d'ailleurs, associe de façon assez curieuse la couleur de peau et la religion dans un même réprobation de l'agenda de recherche pour les utiliser. Et donc, va obtenir, enfin, c'est pas l'opposition qui a obtenu ce résultat, mais en tout cas, on va obtenir une décision du Conseil constitutionnel qui portera sur l'article associé, donc je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais en fait le Conseil constitutionnel lui-même donne une sorte de développement autour de la possibilité de collecter des données sur l'origine ethnique ou la race, et il dit collecter ce type de données serait en infraction avec l'article 1 de la Constitution. Donc ça pose la barre très très haut quand même. C'est-à-dire qu'on va faire une enquête de recherche est en contradiction avec l'article 1 de la Constitution. Et donc, sur la foi de ce développement du Conseil constitutionnel, l'INSEE a jugé plus prudent de retirer les deux questions. C'est quand même la première fois qu'une enquête de recherche est censurée. En tout cas, il y en a eu d'autres, hein, mais en l'occurrence, avec ce niveau de pression. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a même pas relevé le fait qu'une enquête de recherche était censurée. J'essaie d'imaginer ce qui serait passé si on avait fait une enquête sur l'avortement et que Laissez-les vivre s'était mis à hurler en disant comment ça vous posez des questions sur l'avortement, c'est scandaleux, on ne peut pas avoir ce type de démarche. On imagine comment on aurait réagi politiquement en disant enfin oui, bon, laissez-les vivre, vous êtes gentils, mais laissez-les refaire la recherche. Là, en l'occurrence, on a tous assumé collectivement, je le dis, qu'on a censuré ces deux questions, qui étaient peut-être très mauvaises, hein, je les défends pas, mais en tout cas, on a cette question que je porte à vous et pour le débat sur les conséquences. Alors, que dit l'article 1er quand même pour mémoire, vous le connaissez tous par cœur, évidemment, la phrase qui est importante, c'est que elle, la France, qui est une république, assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Vous voyez que cet article 1, il dit deux choses sur lesquelles on fait un choix politique très fort. Il dit la République assure l'égalité, ce qui oblige un certain nombre de choses, notamment dans l'interprétation nord-américaine, enfin états-unienne, de précisément produire des statistiques pour pouvoir vérifier qu'on produit l'égalité. Et puis par ailleurs, elle ne fait pas de distinction d'origine ou de race ou de religion dans la loi. En l'occurrence, les statistiques ne sont pas une loi. Mais l'interprétation française est que la distinction elle-même est porteuse de discrimination. Donc vous voyez le chaînon qui est organisé, et il est tout à fait cohérent et congruent avec l'hypothèse centrale du modèle français d'intégration, qui est que par l'invisibilité, on recrée le corps de la nation. Et donc, on comprend bien comment la distinction est contradictoire avec cet horizon porté par le modèle d'intégration. Alors, trois choses pour conclure très rapidement sur des données plus objectives sur la question des discriminations. La première, c'est qu'on peut porter la question des discriminations en regardant factuellement quels sont les écarts de position et de trajectoire des groupes qui sont racialisés par rapport aux groupes qui ne le sont pas. Donc on fait cette comparaison catégorielle que je disais. Alors, par exemple, on peut regarder quelle est la ségrégation, le niveau de ségrégation dans la société. Dans l'enquête trajectoire et origine, on avait des éléments sur la composition des quartiers où vivaient les personnes enquêtées. Et comme vous le voyez ici, ce qu'on a, c'est la proportion de personnes, selon leurs origines, entre immigrés et descendants d'immigrés, qui vivent dans des quartiers les plus pauvres de France. C'est-à-dire ceux dans lesquels les 10% de plus bas revenus en France. Et qu'est-ce qu'on a? On a une très mauvaise nouvelle que vous connaissez tous, qui est qu'il y a une très forte concentration de certaines minorités, pas de tous. Vous voyez que c'est pas vrai pour les Portugais, c'est pas vrai pour les Espagnols et les Italiens. C'est vrai pour les personnes d'origine maghrébine et africaine, turque et un peu moins d'Asie. du sud-est, de concentration dans ces quartiers les plus pauvres. Et mauvaise nouvelle redoublée, c'est que ça ne s'améliore pas beaucoup pour les descendants d'immigrés par rapport aux immigrés. Bon, ça c'est un paysage connu. Si on regarde quelles sont les explications à ces écarts et qu'on essaie d'identifier le rôle spécifique lié à l'origine, ben, l'information est mauvaise encore. C'est qu'on voit que les usual suspects, c'est-à-dire Afrique subsaharienne et Maghreb, ont un risque bien supérieur aux autres de vivre dans ces quartiers pauvres, y compris quand ils ont des niveaux de revenus comparables, quand ils ont des tailles de famille comparables, quand ils viennent de familles assez similaires. Et, par contre, on ne trouve pas la même pénalité pour les, quand on contrôle par d'autres critères, pour les personnes d'origine de Turquie ou d'Asie du Sud-Est. Bon, voilà. Même information sur le taux de chômage, donc là je ne développe pas, c'est hyper connu, il y a un surchômage des immigrés et des descendants d'immigrés qu'on va qualifier des minorités visibles, et ce surchômage, il est encore plus fort pour les descendants d'immigrés que pour les immigrés. Donc là aussi, c'est assez étonnant, parce qu'on serait attendu que le niveau d'éducation augmentant, les conditions, les réseaux, les connaissances de la société aidant, eh bien ce chômage baisse pour la seconde génération, c'est pas le cas. Et là aussi, on va retrouver des éléments tout à fait significatifs en termes d'explication du rôle de l'origine sur le surchômage. Alors quand on pose la question directement, comme on l'a fait dans l'enquête, sur le niveau de discrimination perçu, c'est-à-dire une question directe sur « avez-vous été discriminé au cours des 5 dernières années ?», les personnes répondent, alors je passe sur le niveau de signification de cet indicateur par rapport à la subjectivité que ça implique. Et donc on va retrouver les mêmes éléments qui montrent une surdiscrimination qui est vécue par ces groupes que je viens d'énumérer et qui se singularisent par rapport aux autres. Bon, je saute sur cet élément-là. Ce qu'on trouve également avec une comparaison avec une enquête qu'on vient de faire plus récemment en 2015, c'est que les motifs pour lesquels on a été discriminé étaient principalement l'origine et la couleur de peau pour ces groupes. Surreprésentés dans les discriminations, on voit monter de façon très spectaculaire la discrimination religieuse. Il y a, dans Théo, 5% des musulmans disaient avoir été discriminés pour des raisons religieuses, et les autres formes de discrimination qu'ils disaient connaître étaient liées à leur origine. En 2015, 40% des musulmans disent avoir été discriminés en raison de leur religion. Donc vous voyez qu'en l'espace de 7 ans, on a une explosion du motif. On peut enregistrer des éléments et des manifestations plus ou moins de stigmatisation ou de ce qu'on appelle les micro-agressions. Mais je voudrais aller juste à la fin pour mon propos. Ce qui est paradoxal dans la situation française, et je ne vous donne pas les résultats en détail, c'est qu'on a une déconnexion entre une certaine fluidité des relations sociales et des mélanges dans ces relations sociales, que ce soit en termes de relations amicales qui sont assez mixtes, ou que ce soit en termes de choix du conjoint, qui est aussi relativement mixte, en tout cas de façon beaucoup plus mixte que dans le cas des États-Unis. Mais par contre, ce qu'on va retrouver également, c'est une adhésion assez forte, sur la question des appartenances, une incorporation de cette identité nationale dont on parle beaucoup, qui est extrêmement forte également chez les descendants d'immigrés. Et donc, en fait, ce qu'on voit apparaître, c'est un modèle de affinity identity, c'est-à-dire de combinaison de pluralité des appartenances qui s'imposent de façon extrêmement forte dans les descendants d'immigrés. Et donc, il n'y a pas de contradiction ni de manque d'appartenance, en quelque sorte, contrairement à ce qu'on dit dans les débats publics. Mais par contre, ce qu'on obtient, c'est un défaut de reconnaissance de ces appartenances. Et donc là, c'est l'autre question qui est celui qui vient de la structure de la société française. Quand on pose la question à quelle fréquence, par exemple, on vous demande d'où vous venez, qui est une forme de question un peu banale et en même temps tout à fait significative sur la perception de l'altérité, ben vous voyez que 50% des personnes originaires d'Afrique subsaharienne ou des DOM disent, et de façon extrêmement stable à travers les générations, on me demande souvent d'où je viens. Vous voyez que vous soyez immigré, que vous venez juste d'arriver, ou que vous soyez né en France d'un parent originaire d'Afrique subsaharienne ou des DOM et d'un parent français, eh bien, on vous demande de la même façon d'où vous venez. C'est-à-dire que vous ne passez plus inaperçu. Vous êtes toujours en saillance dans votre altérité. Alors que si vous comparez avec les originaires d'Europe, vous voyez que quand ils sont immigrés, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, dans 30% des cas, ils disent « bah moi, on me demande d'où je viens ». Et puis très vite, quand ils sont arrivés jeunes en France ou qu'ils y sont nés, on leur demande plus, en tout cas de façon très rare, c'est-à-dire qu'ils passent inaperçus. Ils sont incorporés à l'intérieur du mainstream. Et on a exactement la même information sur une autre question qui est, est-ce que vous pensez que les autres vous voient comme un Français ? Eh bien, vous voyez que dans 70% des cas, quasiment, quelles que soient les origines, ceux qui sont des immigrés naturalisés disent « Ah non, moi, on ne me voit pas comme un Français. Je suis devenu Français, mais alors personne ne me voit comme un Français. » Et vous voyez qu'on retrouve encore, alors ça baisse avec les générations, mais ça reste quand même extrêmement élevé pour la seconde génération originaire d'Afrique ou même des DOM, c'est-à-dire des Français depuis plus de 6 générations. Plus de près de 60% d'entre eux disent « Moi, on ne me voit pas comme un Français. »
Il faut conclure, Patrick.
Je conclue, est à différentiel des originaires d'Europe qui, encore une fois, passent inaperçus et disent très rapidement « Bah oui, moi, on me bat comme un Français, évidemment. » Donc, on a cette bifurcation qui montre les structures profondes de ce que j'appelle ce désavantage qui est associé à ces stéréotypes et ces préjugés qui sont fortement racialisés, y compris jusqu'à l'identité nationale. Et donc, la conclusion... En deux mots, est-ce que l'explication relève du mécanisme habituel de ce qu'on a identifié dans l'histoire de l'immigration, qui est, oui, d'accord, les premières générations, elles sont exposées à du racisme, de l'exclusion, des discriminations, et puis petit à petit, par le mécanisme ordinaire d'entrée dans la société, elles vont finir par devenir membres à part entière, elles vont passer inaperçues, et elles vont donc être incorporées et échapper à ces mécanismes-là, ou est-ce qu'on est, au contraire, dans un mécanisme particulier qui est de formation, en fait, de minorités ethno-raciales à l'intérieur de la structure française. Et moi, il me semble que les éléments qu'on voit sont assez congruents, ce qui laisse ouvert la question de la troisième génération, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour les enfants des enfants d'immigrés ? Est-ce qu'ils continuent, quand ils sont d'origine maghrébine ou africaine, à être confrontés au même type de singularisation et d'exclusion ? Ou est-ce que, au contraire, bah là, finalement, ça va être fait ? Ils vont être rentrés à l'intérieur de cette structure, ils vont passer inaperçus, c'est-à-dire qu'il y a la précondition dans un système du modèle républicain, c'est-à-dire devenir invisible pour pouvoir bénéficier de tous les bénéfices, en théorie, du modèle d'égalité, ou en tout cas d'être inégalitaire comme les autres sur des critères de classe et pas sur des critères de race.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci. Voilà.